ce soir sur Campus Grenoble
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez bien l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Et aujourd'hui, nous allons parler de la 8e édition du festival art numérique Arcane, qui a lieu du 29... Oui, on me coupe. DNA, excusez-moi.
Ouais, le festival, c'est DNA. L'association, c'est Arcane, et le festival, c'est DNA.
D'accord, ça marche, merci. Du coup, qui a lieu du 29 au 31 mai. Et vous y retrouverez une exposition tout au long du festival dans le quartier Saint-Laurent. Et vendredi et samedi soir, il y aura des performances live et du théâtre au musée dauphinois. Est-ce que vous, pour commencer, vous pouvez un peu me présenter du coup l'association Arcane?
Ouais, bien sûr. Bah, Camille, peut-être tu veux commencer? C'est toi t'es un peu plus vieux dans l'organisation, on va dire.
Oui, ben bonjour l'apérophonie. Bonjour. On est ravis d'être ici là avec vous. Et l'association Arcane a été créée en 2018. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, on est à la 8e édition. On est un festival d'art numérique porté sur l'émergence des artistes dans divers champs de l'expérimentation numérique. Il y a toujours le digital au cœur du projet quand on invite des artistes. Et disons que l'on est identifié au niveau national comme un festival reconnu pour la diversité de sa programmation et puis aussi pour sa bonne ambiance, parce que tout le monde aime bien revenir à DNA. Voilà.
Mais super. Et concernant les artistes qui sont présents pendant le festival, c'est plutôt des artistes locaux ou pas forcément?
Pas forcément. Nous invitons des artistes de tous horizons géographiques. Généralement, c'est au niveau national, donc on a des gens qui viennent de toute la France et qui viennent du coup proposer leurs installs ou leurs performances. Mais on est aussi très porté sur l'émergence locale et on essaye de mélanger du coup au niveau de la programmation les artistes locaux et nationaux.
Et concernant l'exposition, il y aura quel type de production?
Alors là, je vais passer le relais à François.
Bonjour à l'apérophonie. Pour les installations, c'est assez divers en fait, parce que nous déjà, pour l'organisation de ce festival, on fait un appel à œuvre qu'on met en place courant novembre, on va dire. Donc, qu'on relaie sur les réseaux, etc. Et donc, il y a pas mal de gens qui reçoivent cet appel à œuvre, des artistes qui postulent. Donc, en fait, nous, notre programmation, déjà, elle se fait par rapport à cet appel à œuvre. Il y a très rarement de choses qu'on va aller démarcher nous-mêmes ou qu'on va choisir en dehors de ça.
C'est les artistes qui viennent vers vous.
Ouais, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de postuler. On fait un appel à œuvre. Les artistes proposent des choses. Et après, nous, on sélectionne en fonction des envies, de ce qui peut se faire, de divers critères, en fait. Et donc, cette année, il y a un peu de tout, à vrai dire. Il y a des installations qui sont plutôt des installations vidéo. Il y a des installations qui sont des installations plutôt tactiles, on va dire. Il y a des installations interactives. Il y a des installations interactives. Il y a des installations, on va dire, kinétiques avec de la danse. Il y a des installations... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des installations lumineuses, bioluminescentes plus exactement. Voilà, c'est à peu près, je crois que j'ai à peu près fait le tour des différentes installs qu'on a pour cette édition. Ouais.
Ouais, ça fait un panel assez large.
Ouais, c'est l'idée d'essayer de montrer justement tout ce qui touche aux arts numériques, parce que c'est, en fait, ça veut tout et rien dire, arts numériques, donc... Nous, on essaye de proposer déjà des choses qui nous plaisent et surtout des choses qui représentent un peu un spectre assez le plus large possible, on va dire.
Et est-ce qu'il y a des artistes ou pas qui reviennent d'une édition à l'autre, ou à chaque fois ça tourne? chaque fois des nouvelles de nouveaux artistes qui viennent?
Alors, ça tourne régulièrement, mais il y a, entre guillemets, des habitués. Généralement, ça marche au coup de cœur aussi, mais on ne va pas forcément, se baser là-dessus. On se base vraiment sur la pertinence de la proposition. Et quand c'est bien, c'est bien. On ne cherche pas à voir s'il est déjà venu sur une précédente édition. Donc, on le reprogramme ou on la reprogramme. Et disons qu'il y a deux, trois bons clients
qui reviennent.
DNA, ouais. Voilà.
Et pour les éditions, est-ce qu'il y a des thèmes spécifiques que vous donnez aux artistes ou ils ont une carte blanche?
Non, il n'y a pas de thème. En fait, comme on marche avec cet appel à œuvre, l'appel à œuvre, lui, il est ouvert. Il n'y a pas de thème particulier. Du coup, non, ça ne fonctionne pas du tout là-dessus. On n'a pas d'espèce de ligne directrice. Ce serait super, mais ça demanderait plutôt d'aller chercher des œuvres et d'aller chercher des artistes en fonction de nos thèmes. Et ce n'est pas du tout l'optique de ce festival. On cherche plus à... DNA, c'est aussi un tremplin pour des artistes émergents. Et du coup, c'est compliqué d'aller chercher des artistes émergents parce qu'ils ont moins de visibilité. Donc, nous, on préfère que les gens postulent et on voit.
Eh bien, trop chouette. Et aujourd'hui, on est aussi avec Thomas.
Bonsoir, bonjour.
Ton nom d'artiste, c'est Tom B.
Exactement.
Et du coup, tu es un des artistes qui va performer pendant le festival. Est-ce que tu peux un peu nous présenter ce que tu fais? Si je ne me trompe pas, tu fais de la musique électronique, expérimentale, de la drone aussi.
Exactement. Alors... En tant que musicien, effectivement, je fais de la musique, on va dire, noise, expérimentale, musique électronique. Il pourrait y avoir plusieurs appellations, mais on va dire que c'est de la musique électronique expérimentale. J'utilise beaucoup de procédés assez bruitistes et beaucoup de procédés pour créer des grosses percussions et des grosses sections rythmiques, on va dire. J'ai pas mal fait de drone avant. Et pour DNA... Pour DNA, en fait, je vais proposer un set avec un ami à moi qui, lui, fait de la vidéo à partir de... qui fait de la vidéo à partir de synthétiseurs modulaires. Et en fait, un des points communs de nos projets, c'est qu'en fait, moi, je fais de la musique avec des synthétiseurs modulaires également. Et donc, Bastien, sous le nom de Syntony, fait, lui, de la vidéo. Et on avait fait une performance ensemble à Lyon en novembre. Et on a trouvé assez intéressant ce qu'on avait pu produire et on avait envie de le reproduire et de refaire en fait une sorte de performance tous les deux. Et c'est pour ça qu'on a proposé ce projet pour DNA.
Du coup, lui, il utilise un synthé modulaire pour faire de la vidéo.
Exactement.
Je ne savais pas du tout que ça pouvait fonctionner.
Eh bien, ça marche comme de l'audio, sauf qu'on n'est pas sur les mêmes gammes de fréquences, entre guillemets, ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et en fait, c'est des procédés qui sont relativement similaires une fois qu'on a mis ça de côté, voilà, la partie.
Ouais. Ok, je ne connaissais pas du tout. Et pour ton projet, il a commencé quand et c'est quoi un peu son histoire? Enfin, comment t'es entré dans le monde de la musique?
Eh ben, j'étais plutôt sur la scène rock indé dans divers projets ces dernières années. Et il y a maintenant 7-8 ans, j'ai acheté mes premiers instruments électroniques, mes premiers synthétiseurs modulaires, parce qu'un ami m'a un petit peu mis ça dans les mains et je me suis dit « Ah, mais c'est quand même génial,
c'est
ce truc-là !»
C'est incroyable, ça.
Et en fait, je suis complètement... entrer dans ce monde-là et à travers un prisme assez bruitiste. Donc j'ai commencé d'abord par faire plutôt de l'ambiance et du drone. Et puis après, j'ai évolué vers des choses plus noise, plus percussives. Et je trouve que ces instruments permettent d'avoir une approche un peu plus punk que certains autres instruments électroniques peut-être, ou alors une approche vachement plus expérimentale en fait. Il n'y a pas vraiment de règles. Plein de choses sont possibles et en fait c'est assez génial. Donc c'est comme ça que j'ai commencé avec les synthétiseurs modulaires il y a 7-8 ans. Et aujourd'hui le projet il évolue depuis 8 ans et aujourd'hui je dirais que j'atteins une forme qui me plaît beaucoup, que j'aime jouer, que j'aime développer, j'aime enregistrer, j'aime pouvoir un petit peu partager ça aussi avec d'autres musiciens, musiciennes. Mais voilà un petit peu comment j'ai évolué, comment je suis arrivé.
Mais c'est vrai que les synthés modulaires, ça offre beaucoup de liberté.
Exactement.
Pour ce que tu fais.
C'est un monde énorme. Et voilà.
Et du coup, là, ça fait 8 ans du coup, que tu développes ton univers musical.
Artistique. Ouais, et particulièrement, je dirais que s'il y a eu plusieurs phases dans mon projet, ça fait, je pense, 2 ans que je travaille vraiment un son beaucoup plus industriel et percussif, beaucoup plus rythmique, on va dire, avec la recherche de sons de percussion qui vont pouvoir nous rappeler des choses qui existent dans les boîtes à rythme classiques, mais qui sont aussi un petit peu twistées, où on va apporter le côté vachement bruyant, vachement présent, oppressant presque même. Et donc je dirais que ça fait vraiment 2-3 ans que je développe un peu plus ce côté-là dans mon projet. J'ai pu enregistrer 2 titres et un petit album ensuite ces 2 dernières années qui représentent un peu plus ce que je fais actuellement. Ouais.
Et tu pourrais nous citer un peu des sources d'inspiration et d'influence que tu as ?
Ouais, alors justement dans ce monde-là, je pense que c'est des noms un petit peu inconnus. Il y a un artiste qui est aussi un ami à moi qui a beaucoup, je pense, participé à mon éducation autour des musiques électroniques un peu noise, on va dire, qui s'appelle Eric Schlappi, qui est un Américain qui habite à Portland, qui a une marque de synthétiseurs modulaires. Et en fait, il a habité à Grenoble pendant quelques années. J'ai fait de la musique avec lui. Et il m'a clairement beaucoup influencé dans sa façon de faire de la musique, mais sa façon de concevoir des instruments de musique, en fait, aussi. Et en fait, les deux sont hyper liés. Et ça m'a beaucoup inspiré, moi, quand j'ai commencé à faire quand j'ai évolué, on va dire, dans ma pratique musicale. Après, il y a aussi un artiste qui a un label qui s'appelle Universal Broadcast, à Portland aussi, qui essaie de mettre vraiment en avant toutes ces musiques un peu bizarres, on va dire des musiques clairement bizarres, avec des procédés électroniques un peu toujours différents. Et il travaille notamment avec un artiste qui s'appelle également Dalibor Cruz, pareil, c'est un artiste qui a vraiment une recherche rythmique hyper importante. Très peu de mélodies, quasiment pas de mélodies, beaucoup de bruits qui permettent de faire différentes sections percussives. Et ouais, ça, je dirais que c'est 3 influences un peu qui m'ont beaucoup marqué. Et clairement, depuis 2 ans, 3-4 ans, on va dire, j'ai vraiment changé de direction un peu au contact de ces personnes et en écoutant ces gens-là.
Est-ce que tu veux un peu nous parler de ton processus créatif, comment tu travailles, comment tu trouves de l'inspiration ? Est-ce que tu vas marcher, tu vas dans la montagne ?
C'est très primitif, ça arrive vraiment d'un coup. En fait, j'ai vraiment, je vais pas composer, je vais pas forcément avoir de processus de création pendant un certain temps, puis à un moment... Ou alors, je ne vais rien enregistrer, je ne vais rien avoir de très intéressant. Et puis, à un moment, je vais avoir une idée, une façon de faire qui va me marquer et que je vais avoir envie de développer. Et donc, à ce moment-là, je vais enregistrer plusieurs tracks en même temps. Parfois, je travaille sur 2 tracks au même moment. Des fois, je crée 2 structures de morceaux la même soirée, et puis je reprends le lendemain, je vais refaire une autre partie sur ces 2 morceaux, mais un espèce de travail un peu compulsif, vraiment j'entame le processus, et ça se fait sur un moment assez court, et je vais essayer de pousser cette idée jusqu'au bout. C'est un peu ce qui s'est passé dans l'album que j'ai sorti, c'est sur le label Guerilla Cassette il y a quelques mois, où en fait j'ai vraiment eu une idée l'année dernière d'une façon de composer les rythmes et de faire des sons de percussion. Et en fait j'ai poussé cette idée, j'ai fait 7 morceaux en utilisant cette façon de faire, et je suis allé jusqu'au bout. Et après, vu que j'utilise un synthétiseur modulaire, on a vraiment tous des façons de travailler très différentes avec. Certains vont avoir un patch qui vont garder pendant des années et qui vont travailler. Moi, je dépatche mon synthétiseur tout le temps. C'est-à-dire que je fais une session, je fais de la musique, je branche mes câbles, j'ai un patch, je vais faire des sons. Ensuite, je redébranche tout, je rebranche tout pour faire d'autres sons. J'ai vraiment ce truc, je ne suis pas attaché à un patch. Si j'ai un patch qui m'intéresse, je le note sur le papier comment est-ce qu'il fonctionne. Donc, je suis capable à peu près de le refaire. Mais après, il y a vraiment ce truc de... de l'exploration. C'est-à-dire que je préfère avoir arrivé devant mon modulaire, devant mon synthétiseur modulaire qui n'est pas patché. Et là, je me dis, bon, eh ben, j'ai une idée, je vais essayer ça. Et donc, j'ai vraiment ce truc de tout dépatcher pour repatcher. Et c'est comme ça que se font les morceaux, en fait. Voilà, je vais avoir une section rythmique qui va arriver. Ensuite, je vais rechercher des basses. Je vais rechercher d'autres percussions. Donc, je vais repatcher mon instrument. Donc, je trouve ça assez drôle. Et je trouve ça super passionnant, en fait, aussi, dans cette discipline et dans cet instrument de musique, qu'on peut en avoir une vision totalement différente. Voilà.
Et du coup, toi, t'aimes bien partir de zéro et pas être enfermé dans un patch précis, quoi.
Complètement. Et je n'utilise quasiment pas d'ordinateur dans le processus de création, si ce n'est pour enregistrer. Mais en fait, j'ai vraiment besoin d'un instrument comme un synthétiseur modulaire, ou alors un instrument où j'ai vraiment un coup de cœur, une accroche. Et en fait, je vais jouer et je vais composer avec. Mais je suis incapable de composer une track sur un ordinateur en utilisant des logiciels, des plugins. Je suis incapable de préparer un set où l'ordinateur est un peu le maître et va faire jouer différents instruments. Ça, je suis vraiment incapable de le faire. Et le travail mélodique est quelque chose qui m'intéresse aussi un peu moins, et du coup sur lequel je sais que c'est pas quelque chose que j'accroche, et je vais plutôt aller chercher justement des bourdonnements, du drone, des bruits et des percussions.
Parce que tu prends des samples aussi ?
Ouais, carrément. Et en fait, je prends des samples que je vais chercher, diguer un peu sur Internet. Et j'en fais aussi avec mon synthétiseur modulaire. En fait, j'ai la possibilité de sampler et de faire plein de sons différents. Donc en fait, je me fais mes propres banques de samples. Et là, par exemple, pour le live que je travaille pour DNA, d'habitude, je fais des performances qui sont très improvisées, où j'utilise simplement mon synthétiseur modulaire. Et je travaille le patch quelques jours avant et c'est assez improvisé. Là, pour DNA, je vais essayer de faire quelque chose de plus construit. Et donc, en fait, je travaille avec une boîte à rythme. Et sur cette boîte à rythme, en fait, j'ai à la fois des sons de synthèse générés par cette boîte à rythme et des sons de sample que j'ai produit avec mon synthétiseur modulaire. Donc, en fait, j'essaie de faire un set qui va être un peu plus construit. Donc, toujours avec la liberté pour improviser, mais beaucoup plus construit avec des samples, de la synthèse. Et je trouve ça assez intéressant, ouais.
Et tu nous parlais du fait que du coup tu avais du mal à produire du coup sur ordinateur, mais c'est vrai que le synthé modulaire, ça apporte un côté vraiment matériel et physique, quoi. Tu peux vraiment toucher l'instrument, enfin c'est vraiment un instrument, quoi.
Ouais, après il y a plein de procédés pour utiliser l'ordinateur avec un synthétiseur modulaire, justement pour communiquer et pour faire différentes choses de l'un à l'autre. Et c'est des procédés super intéressants. Il y a par exemple, je sais que l'artiste Zero Crossing Point, qui est sur Grenoble, Victor, a eu pendant un moment pas mal à utiliser des synthétiseurs modulaires avec justement celui, c'est un vrai super musicien avec un ordinateur, quoi. C'est fou. Et en fait, il y a des super procédés qui permettent justement de communiquer de l'un à l'autre. Mais moi, c'est pas forcément l'approche qui me plaît le plus.
Est-ce que tu peux nous parler de... Est-ce que tu as des projets en cours à venir ?
Eh ben, on a monté un petit label il y a quelques années avec deux amis qui s'appellent Système Oscillant. Et on travaille sur un projet. Ce projet, moi, je le mène vraiment avec mon projet musical en tant que Tom B, on va dire. Et on va sortir un fanzine avec six morceaux, six œuvres graphiques produites par différents artistes en relation avec les morceaux. Et donc là, ce fanzine arrivera en fin d'année. Donc ça, c'est un projet sur lequel je bosse. Moi, j'ai pas produit de musique, mais je vais plutôt produire un petit peu des textes et des sortes de réflexions un peu bizarres, on va dire, sur le thème qui est le misunderstanding, l'incompréhension, on va dire. Et à côté de ça, on relance un petit peu. On n'a pas forcément sorti trop de... On n'a pas sorti de... grand chose avec le label ces derniers mois, et le but, ça serait de relancer des petites productions type 2 à 3 titres, des mini EP, on va dire, de 2 à 3 titres. Et du coup, j'aimerais bien recommencer à enregistrer pour cette raison là en fait. Donc je commence un peu à réfléchir, je commence à noter des idées, et le travail que j'ai fait, qui a été plutôt de construire des performances live et de construire un live ces derniers temps, va sans doute découler ensuite sur l'enregistrement de quelques tracks, ouais. Parce que j'ai du coup un peu développé des techniques, développé des façons de faire, et je trouve ça assez intéressant, donc je pense que très vite là je vais avoir envie de réenregistrer, et je commence à y penser, ouais.
Et tu nous as parlé de ton parcours, je vais te demander, est-ce qu'aujourd'hui t'es satisfait de ce que tu fais, est-ce que t'es satisfait de ton évolution musicale, ce que tu fais aujourd'hui?
Ouais, je crois que je suis content de ce que je produis, et je suis content d'avoir l'occasion de le jouer aussi dans des conditions super cool, quoi. On a joué à Grande Zéro à Lyon avec mon ami Bastien justement sur une première, et c'était pour moi c'était vraiment ça correspond vraiment à ce que j'ai envie de faire, jouer, mais en plus jouer mon set, enfin jouer un set construit avec quelqu'un, avec un vrai propos vidéo en plus, je trouve ça assez génial, un vrai travail à deux, et donc je suis assez satisfait de ce que je produis comme musique et de avec qui je le produis et comment est-ce qu'on le produit. Et après je suis content du coup de pouvoir aussi le jouer à DNA, qui sera un live complètement différent de ce qu'on a joué à Grande Zéro d'ailleurs, et j'aimerais bien pouvoir le jouer plus, en fait. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à atteindre les lieux de diffusion, les lieux qui passent qui organisent des concerts, les organisations de concerts, pour essayer justement de pousser un peu ces musiques bizarres qui sont vachement underground, qui sont pas forcément super soutenues, ou alors qui sont toujours en marge, et ce serait comment est-ce qu'on peut essayer de jouer un peu plus, comme j'aimerais bien essayer de jouer plus, ouais, à l'avenir.
Et du coup, toi, là, c'est la première édition à laquelle tu participes, ou t'étais déjà à l'avant ?
Eh ben, j'étais là en tant que public l'année dernière, et notamment, on a pu voir donc un de mes amis qui est dans le label Système Oscillant également, qui s'appelle Carrots, son projet s'appelle Mauro, son projet s'appelle Carrots, qui avait fait un solo de batterie et synthétiseur modulaire, qui avait été magnifique, et du coup, j'étais très content d'aller le voir l'année dernière à DNA.
Trop chouette. Ouais. Et on va faire une petite interlude musicale avec du coup un de tes sons qui s'appelle Thalas. Est-ce que tu veux en dire un mot avant qu'on lance Thalas ?
Eh ben, il est donc sur l'album Sandstorm Transmission qui est sorti l'année dernière, et il est vraiment à l'image du processus de création qu'il y a eu. Que j'ai eu pour cet album, où tous les morceaux sont vraiment venus très rapidement, avec ce côté très bruitiste et avec des percussions que j'ai essayé de travailler vraiment assez brutes, assez un peu violentes, je trouve, et j'aime bien ça, donc je suis content que vous diffusiez celle-ci.
Et ben, pour cette interview musicale, on va écouter Tombé Thalas, et on va enchaîner avec Swishfou. Du coup, c'est un artiste aussi qui sera présent au festival DNA. Du coup, c'est le titre Fouts de Swishfou. et vous écoutez toujours l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Et nous venons d'écouter Tom B avec le titre Thalas et Suis-je fou avec le titre Thoughts. Et si ça vous a plu, vous pouvez assister au live audiovisuel de Tom B le vendredi 29 mai dans la chapelle du musée et au live audiovisuel de Suis-je fou le samedi 30 mai dans les jardins du musée. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur Suis-je fou ?
Ouais, Suis-je fou ? Bah, Suis-je fou, c'est un peu, entre guillemets, notre tête d'affiche. C'est peut-être l'artiste musical le plus connu de cette sélection d'artistes qui viennent pour le festival. Suis-je fou, c'est un artiste de l'ouest, du nord-ouest de la France. C'est un personnage assez énigmatique qui est beaucoup axé sur le do it yourself et du coup qui a une longue approche et une longue réflexion sur tous ces outils-là. Et c'est quelqu'un qui a développé beaucoup d'outils, que ce soit des synthés, que ce soit des logiciels pour faire du son. Et là, il propose là son live. C'est vraiment une démarche très personnelle et aussi très do it yourself. En fait, lui, il propose un live où il est devant un écran, mais c'est l'écran qui en fait l'écran qui contrôle avec son ordinateur, c'est l'écran qui est projeté sur scène. Okay. Donc en fait, il n'y a pas de filtre entre lui, entre ce qu'il fait et le public. C'est un peu comme une démarche de live coding où on projette en live les lignes de code qui produisent de la musique. Là, lui, il utilise un autre logiciel qui est Max MSP, et donc il contrôle à la fois le son et la vidéo sur l'écran que le public peut voir. Donc on est vraiment dans une démarche où oui, c'est ça, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de filet, et on voit vraiment tout ce que l'artiste fait. C'est ce qui est assez important, enfin assez innovant finalement. Et donc c'est un live audio vidéo, il partage pas mal de vidéos, lui, qu'il a faites tout au long de sa carrière, où je pense qu'il a suivi pas mal de gens faire du graffiti et ce genre de choses. Donc il y a pas mal de vidéos un peu comme ça qui partagent en live aussi.
Oui, mais j'ai retrouvé une vidéo de Suis-je fou avec justement cette projection là avec du coup le logiciel où on voit comment il fait la musique. Et si vous voulez voir cette vidéo là qui est incroyable, vous pouvez aller sur le site arcane.io, si je me trompe pas.
Absolument, c'est notre site internet, ouais.
Voilà, bah, vous pouvez aussi retrouver en fait toute la programmation sur ce site là. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Suis-je fou ou est-ce qu'on parle?
Non, on est très content de l'avoir. Ça va être super. Il jouera dans les musées du coup samedi, ouais, c'est ça. Samedi soir.
Et si ça vous va, on peut passer aux installations. Les installations qu'il va y avoir pendant le festival, du coup, elles sont rue Saint-Laurent et au musée dauphinois. Donc il y a, on va vous présenter les différentes installations qu'il va y avoir pendant le festival DNA.
Oui, alors au niveau des installations, il y aura donc Damien Traversa avec Pulsio. Je vais vous pitcher un petit peu son install pour donner envie. Donc c'est un voyage musical sensoriel et intime où le geste devient source et moteur du son. La matière musicale se transforme au fil des mouvements de Debussy aux pulsations techno. Et donc Damien viendra en mode installation et nous proposera également le mode performance. Donc ça sera une version augmentée de son installation avec une chorégraphie et une danseuse qui viendra du coup performer sur Pulsio.
Ouais, c'est ce que je disais, c'est une installation un peu télékinétique entre guillemets, où lui il contrôle par des mouvements des lumières en fait. Et l'idée c'est de contrôler ces lumières via les mouvements, donc du coup c'est assez intéressant et bon original. Et du coup l'idée d'avoir une danseuse, ça permet aussi de mettre ça de manière encore plus plus en avant, quoi.
Oui, et Margot Guiguet, donc la danseuse de Pulsio, donc le rejoindra pour des performances live ouais, en version augmentée.
Notamment vendredi soir au musée aussi.
Ouais.
Vendredi soir, on a donc il y aura les trois performances Tom B, Damien Traversa, Margot Guiguet et Denis De Dieu qui fait du théâtre. Ça, c'est les trois performances qu'on fait vendredi soir. Et à partir de vendredi après-midi, donc il y a toutes les installations, dont l'install de Damien. Et puis, on peut peut-être continuer avec les autres installations qu'il y a au musée dauphinois, et ensuite on descend.
Oui.
Si tu veux, j'enchaîne sur Anne-Sophie Aymar. Anne-Sophie Aymar, c'est une artiste de Clermont-Ferrand qui est que nous a proposé le festival Vidéoform, qui est un festival de vidéos de Clermont-Ferrand. Et en fait, on est en partenariat cette année avec eux. Ils nous ont invités pour leur édition et nous, on les a invités aussi. Et donc, on va dire Anne-Sophie, c'est plus du film. Elle, c'est une artiste plutôt, on va dire, graphique. Elle fait de la photographie, de la vidéo. Et là, elle nous propose une installation avec un mapping et des écrans. Et ça va être assez chouette, je pense.
C'est quoi le nom de son installation ?
Sous le fleuve, ça s'appelle. Et ça, c'est au musée dauphinois, donc. Et ensuite, il y a Jeanne Ibry, qui est également au musée dauphinois. Jeanne Ibry, elle, c'est une artiste qui fait pas mal d'installations. Elle vient de l'Ouest aussi. Et là, elle va nous proposer une espèce d'installation post-apocalyptique avec une grosse boule à facettes. Voilà. Je sais pas, c'est dur à pitcher un peu plus que ça. Je pense.
Alors moi, ce que je peux vous pitcher, c'est boule à facettes éclatées, fleurs, son, lumière et vidéo. Voilà.
Bah voilà. Et si vous voulez en savoir plus, il faut venir.
Exactement.
Et d'ailleurs, c'est du coup un festival qui est ouvert à toutes et à tous.
Absolument, bah ouais, absolument, c'est ouvert à toutes et à tous. Malheureusement, la chapelle n'est pas accessible PMR pour le moment. Il y a des travaux qui sont prévus là en fin d'année pour que ce soit le cas. Mais tout le reste du musée est accessible, les jardins notamment, pour notamment les performances de samedi soir. Voilà. Et puis, c'est à partir. Il n'y a pas d'âge particulier. Il n'y a pas de. Peut-être vendredi soir, la performance de Denis De Dieu, qui est peut-être pas recommandée pour les enfants, mais sinon, je pense que ça devrait le faire.
Et il y a besoin de réserver ou quoi? Ou pas du tout, on peut venir
Alors non, il n'y a pas besoin de réserver. C'est un festival qui est à prix libre. Donc, on vient avec de l'argent et pour soutenir le festival. Et voilà, c'est tout. Mais non, il faut juste pas arriver trop tard pour pas rater les performances. C'est surtout ça. Et pour les installations, c'est toute la journée de 14h à 19h. Voilà.
Oui, et je tiens à préciser que le prix libre, il est pour les soirées. Performance.
Oui, oui.
Pour la partie installation, en journée, l'après-midi, il y a une déambulation du public
totalement gratuite.
Gratuite, et c'est que le soir, en mode performance, que c'est à prix libre.
Mais trop chouette.
Ouais, c'est cool. Oui. Et je finis avec la dernière install du musée dauphinois, qui est Marin Cardoz, qui lui propose une installation en quadriphonie. Donc lui, on va l'installer dans le verger du musée dauphinois, donc sur les terrasses, avec vue sur la ville. Ça va être assez chouette. Et donc il nous propose une installation quadriphonique où on va pouvoir commander le son grâce à un contrôleur de manette PS5. Donc l'idée, c'est de se retrouver au centre de ces quatre enceintes et de pouvoir moduler le son grâce aux manettes. Et Marin Cardoz est aussi c'est lui aussi qui clôturera la soirée du samedi soir avec un live sous le nom de Cardozo.
Et d'ailleurs, j'avais des questions sur Cardozo.
Ouais, il jouait aux Nuits Sonores là, la semaine dernière.
Du coup, c'est quand même assez particulier parce qu'il fait de la musique avec une manette de PS5.
Ouais,
c'est
assez fou.
Assez original. Et je voulais savoir comment il fait. Il a transformé cette manette en instrument.
En fait, ouais, il contrôle lui un ordinateur avec un logiciel.
Et en fait, il a programmé des paramètres qu'il a programmé pour les différentes fonctions de les différentes fonctionnalités de la manette. Et donc en fait la manette, c'est un contrôleur de ces instruments. Après, bon, ça c'est les grandes lignes. Je sais pas exactement comment ça marche à l'intérieur. Je sais qu'il utilise Ableton Live pour faire sa programmation. Et voilà. Et le live aussi de samedi soir, c'est aussi avec une manette de PS5.
Ah, d'accord.
Ouais, c'est vraiment son instrument de prédilection a priori. Et je tiens à préciser qu'il y aura aussi, c'est aussi un live audio vidéo parce qu'on aura Kanto, qui est un artiste de l'association et un artiste grenoblois, qui fera le VJ pour Cardozo. Voilà.
Et pour en revenir sur la partie installation, qu'il y aura rue Saint-Laurent. Il y aura Floraison, donc, qui sera installée à la résidence Autonomie Saint-Laurent. C'est une installation immersive interactive où les visiteurs rencontrent leur double numérique.
Ouais, c'est un espèce de miroir 3D, quoi.
Ouais, un miroir bien digitalisé. Il y a ensuite Luciférine, qui est une installation de Thomas L'Aigle sur le thème de la bioluminescence. C'est une œuvre sonore et sculpturale mettant en scène des bactéries marines bioluminescentes.
Ah,
donc
ouais.
Super intéressant. Dans l'obscurité totale, avec une lumière vivante liquide. Donc on invite vraiment les gens à passer voir Luciférine de Thomas L'Aigle. Puis aussi Senso. Senso, c'est une sculpture avec capteur de contact qui sera installée à l'écoutille. C'est un
Sento.
Oui, Sento. J'ai
ouais,
dit Senso.
Ouais.
Désolé, c'est Sento. Et donc, c'est né d'une réflexion sur les intimités numériques. Et ça interroge qu'advient-il du plaisir lorsqu'il se situe à la frontière entre le réel et le virtuel, l'intime et le collectif.
Ouais.
Et c'est donc à l'Écoutille, qui est un lieu partenaire du festival DNA depuis de nombreuses années. Et ainsi que la résidence Autonomie Saint-Laurent, l'Union de quartier aussi, la Maison pour tous, que l'on remercie parce que le quartier Saint-Laurent est vraiment en soutien sur le festival DNA depuis plusieurs années, avec d'autres partenaires comme l'Hexagone, comme beaucoup d'autres collectifs qui nous suivent et qui nous aident, et on les remercie beaucoup pour tout ça.
Oui, parce que c'est un festival 100% ouais, bénévole. Voilà,
ah,
même si on marche avec de l'argent public, on est tous bénévoles là-dedans. Et oui, pour revenir sur Santo qui est à l'Écoutille tout le week-end prochain, c'est l'installation haptique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que on touche des choses et il se passe des choses. Ouais. Voilà.
Mais
on touche des surfaces, il se passe des choses.
Ouais. Il y a vraiment
un panel, ouais, ouais.
Il y a un grand panel d'installation.
Et il y a encore un autre artiste émergent dont on n'a pas parlé, qui est également rue Saint-Laurent, qui est à l'Union de quartier, qui sera à l'Union de quartier Saint-Laurent, qui est Ludovic Hall, qui lui a développé un monde complètement architectural sur ordinateur, où l'idée c'est de se balader dans une espèce de ville assez futuriste et gigantesque où on peut moduler un peu l'architecture et il y a du son qui se produit aussi. Ça, c'est, je pense que ça va être vraiment cool. On a bien hâte de faire ça. Du coup on a réussi à récupérer des ordinateurs pour pouvoir proposer plusieurs postes d'ordinateurs pour que le public puisse profiter un peu de ce fichier exécutable, chacun de son côté, dans son coin, faire sa petite expérience.
Il y a une installation dont je voulais qu'on parle, c'est l'installation Smartphonix.
Alors ouais, Smartphonix, c'est pas une installation, c'est une performance.
Okay.
C'est une performance, c'est la première performance de samedi soir, du samedi 30, qui jouera à 20h, si je dis pas de bêtises.
Alors
20h30, ouais.
À la chapelle.
Ouais, et donc Smartphonix, c'est deux artistes, Romain Allard et Nicolas Cano, qui ont développé un live audio-vidéo où le public peut interagir en direct grâce à leur smartphone.
Ouais.
En fait, l'idée, c'est de se connecter à un réseau local via les téléphones qu'on a tous dans nos poches et d'interagir avec la musique et la vidéo en direct.
Du coup, ça fait que tout le monde peut participer. Du coup, le public peut participer librement.
Ouais, c'est ça. Ouais. Alors c'est ça sur papier. On va voir ce que ça donne. Nous, on n'a pas vu encore exactement à part des teasers, etc. Et tout, mais on a bien hâte de voir ça. Oui. Pour le coup, c'est vraiment un truc, une expérience assez bruitiste et assez intense, je pense.
Et on a la chance de les voir dans la chapelle du musée dauphinois, qui est vraiment un lieu magique. Et on remercie jamais assez du coup le musée dauphinois de nous laisser installer comme ça et inviter des artistes dans un cadre qui est franchement complètement ouf, et ainsi que les terrasses où il y aura donc la soirée. Les terrasses sont magnifiques, je pense que les locaux connaissent bien. On a une magnifique vue de Grenoble. Oui, et donc le musée dauphinois est vraiment un lieu d'accueil super bien pour nous, et on les remercie.
Est-ce qu'on a fait le tour des installations et performances, ou vous voulez rajouter
Je crois qu'on a fait le tour, ouais, c'est ouais. Ça. Et me semble-t-il qu'on a fait le tour, on a parlé de tout le monde. Et il y a juste un truc que je voulais rajouter. On a fait aussi cette année une pré-inauguration ou un pré-lancement du festival avec un spectacle participatif qui jouait la semaine dernière, qui s'appelle Tryhard.
Ah mais oui, le 21.
Qui est un spectacle avec des souris, des pointeurs de souris. Voilà, donc il y a 56 pointeurs de souris qui sont connectés tous sur le même écran. Donc on a fait ça au cinéma Juliette Berthaud. Et c'est un spectacle autour des captcha et de la façon dont les captcha nous utilisent. Et c'est surtout très drôle.
Donc, oui, on avait eu la chance de voir Samuel Acquil à Lyon l'année dernière et on avait vraiment eu un coup de cœur. Et donc voilà, sa performance a visiblement marqué pas mal de monde la semaine dernière à la salle Juliette Berthaud, voilà, en partenariat avec la Cinémathèque de Grenoble aussi, qui nous a accueillis pour ce projet.
Et pour rappel, le festival d'art numérique DNA a lieu du vendredi 29 mai au dimanche 31 mai. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site arcane.io. Et si vous avez du temps ou l'envie, il est possible de rejoindre l'équipe en tant que bénévole. Et encore une fois, toutes les infos sont sur le site. Est-ce que pour être bénévole pour le festival, est-ce qu'il y a des prérequis à avoir ou pas du tout ?
Non, l'idéal c'est de... Non. En fait, on recherche encore des bénévoles et on recherche toujours des bénévoles. Beaucoup pour aussi la médiation, parce que c'est quand même un gros point de ce festival. Nous, on invite les artistes à faire des installations pendant 3 jours. Et donc, c'est une grande chance pour le public de pouvoir rencontrer les artistes en direct et de leur parler. Mais ils ont besoin de relais parce qu'ils ne peuvent pas parler pendant 8 heures d'affilée de leurs œuvres. Donc on a besoin de bénévoles pour les relayer sur la médiation notamment, mais pas que, il y a aussi plein d'autres choses à faire, notamment en termes d'installation.
Ouais, si tu peux nous dire un peu les postes de bénévolat que vous cherchez.
Beaucoup de la médiation, après on a besoin de personnes...
Sur de l'assistance technique aussi.
Ouais, sur de l'assistance technique, s'il y a des gens qui veulent exactement. Un peu se lancer là-dedans ou découvrir. Et puis toujours le bar samedi, hein. Le bar c'est aussi un gros point de... pour nous soutenir aussi. Donc si on a des gens qui tiennent le bar, c'est super aussi.
Et le festival approche à grands pas. Comment vous vous sentez à l'approche du festival ? Ça va, c'est pas trop le rush aussi ?
Ça commence à tirer, mais j'ai l'impression qu'on est un peu précaré sur tout. Donc pour l'instant, on n'a pas encore eu de surprise. On s'est dit, oh là là, on a oublié ça. Donc on croise les doigts.
Bon, on a toujours des petites surprises la dernière semaine, mais pour l'instant, ça va.
Eh bien, je vous souhaite un bon festival. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?
Non, je pense qu'on a fait le tour et on invite vraiment tout le monde à venir déambuler à DNA 2026. Et on est vraiment super content d'avoir été invité à l'apérophonie. On vous remercie.
Et merci à vous d'être venu.
Merci.
Et nous allons écouter Cardozo. C'est l'artiste qui clôturera la soirée du samedi avec Canto en, en VJ7 et qui clôturera également notre émission. Et merci à François, Thomas et Camille d'être venus. Et merci à Zoé à la technique. Et on se retrouve pour une prochaine apérophonie. Bonne soirée.
L'apérophonie.
Ouais, mais c'était quoi?
L'apérophonie.
C'est quoi?
L'apérophonie.
Quoi?
Sur Campus Grenoble.
Sur quoi?
Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.